Radio Spirale. Aujourd'hui, quadruple lecture avec des poètes du Norrois, Geneviève Gosselin, Nicole Richard, Gabrielle-Pierre Ouellette et Denise Desautels. La lecture se tenait à la librairie Olivieri en mai 2011.
Bien, bonsoir. Bienvenue à vous. Merci d'avoir affronté les inondations montréalaise pour notre lecture de poésie à la librairie Olivieri, qui nous accueille toujours depuis plus de 10 ans maintenant dans son espace. Et merci également à Radio Spirale, qui fait une captation de l'événement qui sera donc diffusé sur Radio Spirale dans les prochaines semaines. Surveillez Radio Spirale donc. Alors, ce soir, 5 voix de diverses provenances esthétiques, toutes mues par le même désir de sens, de faire sens dans l'expérience du monde. Laissez-moi commencer avec l'ouverture du nouveau livre de Normand de Bellefeuille, qui peut malheureusement pas être parmi nous ce soir, mais qui est dans son île, à l'île d'Orléans. Deuxième livre, donc, de son triptyque « Des chroniques de l'effroi », dont nous publierons le troisième volet en 2012. Voici donc un poème tiré de « Mon visage », qui est vraiment une suite, un ensemble poétique, quand le triptyque sera complété, assez unique dans notre poésie. Donc, presque au hasard. Non, ce n'est pas celui-là, c'était l'autre avant. Hasard contrôlé. Je ne rêve qu'à mon compte, joie et variation de Fernando Pessoa, parce que le livre s'articule, disons, appelons ça comme ça, variation et fugue. Je rêve à mon compte d'un autre visage, celui d'un dieu malade peut-être, d'un pirate pervers, ou d'un père à l'agonie. Ça, c'est un jour de pluie sur Montréal en novembre. Je ne rêve toujours qu'à mon compte, même d'un père à l'agonie, par un jour de pluie sur Montréal en novembre. Avec un tel visage, il me serait plus facile d'avoir cette grâce pardonnante de certains animaux envers leurs prédateurs, cruellement à l'œuvre, d'avoir toute la part charnelle du regard, à travers le brouillard atomique des choses, d'avoir même un sourire parmi les chagrins énormes. Un tel visage serait ma rédemption, le tissu neuf enfin dont me vêtir, un tel visage serait cette cécité parfaite dont parle Alvaro de Campos, ou serait-ce Fernando Pessoa? Dans ses derniers poèmes, un tel visage te convaincrait de m'aimer, quel que soit le corps dont je m'habille, quel que soit le pas de danse esquissé, quelle que soit l'intensité du soleil déchirant sans remords, sans conscience, tout le visible. Ce visage-là sera mon offrande à l'exact. Voilà, c'était Normand de Bellefeuille en présence. Maintenant, notre première invitée, Geneviève Gosselin, publie un premier livre conséquent avec « Devant mon corps ». Geneviève termine des études de cinéma, se passionnant pour le langage des images. Elle espère poursuivre ses études en lettres pour éventuellement œuvrer dans le milieu culturel québécois. Ce premier livre nous situe d'emblée dans une poésie qui a engagé un dialogue, sinon un combat avec le monde. Le vers bref nous conduit rapidement aux enjeux du poème et aux préoccupations de la poète que sont l'édification identitaire, la rencontre de l'autre, de chair comme de mots, la création du pays et leur déchirement tout aussi bien dans un même souffle. Une écriture incisive pour ne pas mourir au monde. Un premier livre donc qui constitue de belles promesses. Geneviève?
Bonsoir. Donc, j'ai décidé de commencer par vous lire le début du livre. Comme ceux qui l'ont lu savent que c'est assez bref. Donc, j'ai décidé de faire une suite quand même pour donner une meilleure idée de l'identité du livre. « le chaos tarot de mon corps fragile. Avatar nécessaire pour sculpter la brute vérité. Agile, elle capture l'intervalle où cogite l'essentiel. Je me tue par peur de naître, je meurs déjà. Dans le ventre de mon pays, il faut mourir un peu pour ne pas trop mourir. Notre vie s'élance par un cri. La douleur prévoit ses rechutes, réitère la force de vivre. L'enfantement des mots en goulet procréateur. La traversée transperce un paysage aux parois liquides. Nous sommes ténus devant l'attraction d'une pléiade affirmée. Ses doigts de lumière giflent l'adresse naissante. Tête gestante, repose-moi sur la face cachée de l'oreiller. Fugitif appui, épaule des nuits. La cavité de l'appétence boursoufle, l'éventrée avant l'altération. L'ébauche lyrique atomise le miroir, s'exaltent les gouttes de l'amorce fracturée. L'éveil de votre ferveur trace l'étau libérateur. Se dépose sur des jambes de nuages, une fortitude croissante aux épaules de marbre. Je suis des aquarelles songeuses. Il est temps de battre le fer, c'est chaud. Des spasmes désassemblés me consument. M'assiège une fièvre débordante. Séisme de flots endigués. Survenant, ton empreinte marque mon front. S'emboîtent les pas dans le reçuit d'un espace perméable. J'entends le pouls d'une coalescence. Frémissement d'un passage vers l'ailleurs. Je naîtrai sous le joug double de nos têtes, nous métisserons l'heure souveraine. Mon instinct marque bout verticalement, c'est violent. Un regard fouetté de soleil avalise la déchirante éruption. Le rêve impulse le réveil, vous me campez dans un rationnel cauchemar. Je réclame le sommeil assassin. Il me tue dans la brèche des nuits. Les heures digèrent l'angoisse, les yeux sombres de la blancheur du jour, filaments de songe, course à relais immuable. Des voiles soupirs s'accrochent aux tempes, dans un doux craquement, la nuque se fend. Se multiplient les funicules de l'arbre vertébral, prolongement de l'intarissable, autopsie d'une mort fragmentée. Se dilate le trop-plein de soif. La pénombre dénude l'enrobage, s'arque jusqu'à la déchirure un corps tordu sous le portail de l'utopie. Comment embrasser l'obscure genèse? La mort dévorée sur la page réverbère. Mon ventre étiré fend l'horizon. Je refuse de givrer dans la neigière des sens. Je m'imbiberai de magnétisme. En notre mémoire future loge l'énergie de la poursuite. Je m'assouplis sous l'essor de votre mouvance, murmure de la féconde arrivée. Je veux être à fleur de mots, avoir l'eau à la bouche, cœur cartouche, sans d'encre et gerbe de sens. En alerte sous la vague des mots. Cœur voyageur, tu te régénères aux extrêmes, messager avide de fraîcheur. Tu plonges, vif comme le cormoran, dans une mer enchevêtrée. L'eau glacée écorche tes flancs, agrippe tes plumes. Le corps se plie au sacrifice. La matrice du possible se découpe au creux de l'abysse. S'assoupissent les ruminantes faiblesses. Mûrit le rêve d'envergure plénière. Les additifs du sublime nous ficellent au vent fou. L'abordage des replis dans l'obscurité s'élabore. L'échappatoire élémentaire se cache sous la paralysie du grégaire. Une épidémie freinée par des battements de tête. Mobile, je tempère les gradations. Les tournis emplissent mes actions. Je coudoie mes angles morts. Crache en l'air une chambranlante bravoure. Indissoluble, le mystère s'éternise en écho. L'infirmité de la chair se couvre de prudes espérances. Je me colore de préludes inventés. J'enfile la fuligineuse nuit. Les draps luminescents s'esquivent. Ce flou fout la brume en tête. La géhenne éclot dans l'œuf. Dans le dôme se meut. Où siège l'issue? Tu éperonnes nos flancs, beauté acérée. Tes innocents coups nous tuent sans relâche. Pour mieux recracher, tu aspires les ébréchures de tes poussées. Tu couronnes notre cœur, te nourris des ravages. Stérile est la délivrance. Ces passages déballent les vivres, pointent comme des craies nos vertiges. Dans notre étendue, l'exigence de vivre peut-elle se capturer? J'arpente mes abîmes à la recherche du doute.
Merci Geneviève. Maintenant, Nicole Richard poursuit depuis plusieurs années un parcours personnel et singulier. Poète, elle a publié 3 recueils de poésie aux éditions du Norrois. En 2006, elle a fait paraître aux éditions de l'Instant Même Intramuros, un recueil de nouvelles. Le Bois sacré est le premier volet d'une trilogie intitulée L'incessant retour, qui a pour toile de fond le personnage mythique d'Antigone. Dans le premier volet, la narratrice s'enferme seule dans sa chambre, pour traverser les étapes du deuil après le suicide du père. Elle relie Œdipe à Colonne sous un angle nouveau. L'écho du texte ancien se répercute jusqu'à compromettre le sens et le ton de l'œuvre originale. La narratrice s'approprie les mots de Sophocle, puis le personnage mythique Antigone devient l'alter ego idéal pour nommer ce qui refuse de se taire à l'intérieur. Tout comme Antigone, celle-ci n'a jamais revu son père après sa disparition, et la narratrice sait que la mort sans cadavre n'est que littérature et que toute poésie est destinée à faire renaître la mémoire. Nicole?
Je me mets toujours de côté. Sans dépouille, la mort n'est que littérature. Je regarde la photo de mon père appuyée sur le vase vide. 2 longs cierges y reposent. Un fil ténu de poussière les relie depuis 10 ans dans la même position. Sous ce vase, un socle rehausse l'objet, obligeant mon regard à considérer ce qui s'offre à la vue. Je m'enferme dans cette pièce où j'emprunte à Sophocle la lumière pour lire à la clarté les vers irréparables. Je cherche du réconfort dans cette chambre et les lueurs timides plombent mon obscurité. L'ocre des murs me conduit sur les terres lointaines, à Thèbes, où l'imagerie sanglante de l'auteur ancien me permet de toucher au mystère sonore. Dans mon corps qui se débat sans outils, l'écriture abolit l'espace, malgré l'espace déjà anéanti. Je tourne les pages écrites il y a des siècles, où toute lumière passait par le grain des étoiles, quand le firmament était autre chose qu'une vue de l'esprit, l'horizon participait à fabriquer cela, les vagues de la mer Égée ou peut-être d'une autre sans nom, les paysages vrais, le sable meurtrier balayait les hommes, puis le vent donnait un accès direct aux dieux. Derrière la porte close où seul je m'enferme, il n'y a aucun ami témoin, ni figure aimante. La mort exige un effort de promptitude. Malgré une attention affermie, le visible tend à subir les affres de l'obscurité. Chère de fille, comme tu te plaisais à me nommer, c'était une richesse, ce manteau fait de nous deux, une appellation sans brisure. Nous sommes sortis de Thèbes pour accéder à l'histoire. L'exil nous a conduits vers des contrées lointaines et lové dans ses paysages, nous fûmes heureux. Je quêtais le pain tout en cherchant dans ma mémoire un homme au grand complet dépouillé de sa forme et moi entièrement livré à son nom. La montagne s'efface tandis que je nomme ce qui disparaît de ma vue au déclin des jours dans l'obscurité lente à venir. Je ne connais ni ces pays ni ces faubourgs, de l'autre côté des mers par-delà le temps. Je regarde par la fenêtre le trottoir mouillé. Durant des heures, exilé du présent, j'aspire, compagne enroulée au pied d'un père, à recréer par mes efforts les agitations dépourvues de route. Je t'accompagne affligée par les détails et l'excès. Dans l'évocation des tourments, je suis audible, tout autant que fictive à tes côtés. Antigone, toi seule demeures intacte, d'une manière si physique. Je lis seule dans ma chambre les vers qui conviennent mieux que les souvenirs parce qu'ils donnent froid dans le dos. Et la cruelle plongée mène au tréfonds, dans la demeure imperfectible de mon âme, à cet endroit où les torches n'éclairent jamais que la sentence proclamée par Œdipe à Colone. Ici s'arrête la route, tu n'as plus accès à mon intime décision qui me vient sans l'aide des mots raisonnables. Je m'élance dans la blancheur radicale du néant, les mailles de nos conversations se dénouent à l'entrée de cette nouvelle patrie où tu es exclue, ma fille, désenchantée par tes dernières illusions. Je m'invite au voyage dans un lancinant désir de me confondre au mouvement de la trame. Dans l'architecture des errances, je me glisse pour retrouver la pièce manquante à cette joute où un père lègue à sa fille l'invention de sa mort. Il me faut engendrer le corps indispensable, une seconde fois au ralenti, vivre la traversée à rebours, de la dépouille aux connivences, dans l'air de la commémoration le défunt, matière qui se transforme sous mes yeux, jusqu'à ce que le dévidoir de l'âme appose le sceau final. Un dernier regard au fond des choses froisse l'idée que je me fais de la reconnaissance des traces, inventant chaque épisode pour que naisse une version du périple imaginée à l'écart du monde. Antigone, mon rituel est un fauve indompté. Je me projette en toi, confondu par la ressemblance. Ton père disparu s'abîme au regard pénétrant du divin. Sur le terrain exposé aux intempéries, je dépose des fleurs, l'absence du tombeau, dans le cimetière aux herbes couchées. La mer entoure ce repère où le vent mime la présence des corps. Les vastes étendues de sable dirigent mon regard vers les récifs. Je sens le vide sous la terre, le vertige, la parfaite harmonie. Sur la cime, le tumulte incessant prend possession du lieu. Ne demeure que la chair malmenée par les bruits ambiants. La partition se joue uniquement à tes côtés. Si tu me dérobes au langage, où vais-je resplendir? Je ne vois pas la lumière tendue comme une perche, ni les reflets supérieurs dirigés vers moi à mon insu. L'archer vise trop loin sa flèche dans l'espace. Je suis prisonnière de ces longues traverses qui se détachent comme le sable sur ma peau, dans la tempête en même temps que ma raison. Un oiseau droit sur la branche qu'il domine émerge à travers le lustre des feuilles du laurier. Sous son aile déployée, la pénombre transite vers l'homme grisé de lumière reconquise. Iris passe à travers les arbres du boisé. Sur la terre sacrée, l'illusion est le chemin. Des pensées inexprimables et pourtant pressantes, tellement qu'elles sont ma véritable préoccupation, des mots intimes et combien loin de toute générosité, s'enlisent en moi, la plupart tournés vers ce qu'il y a de plus terrestre ici-bas. À mon tour, je compose les nuances du destin. Je me résigne à ton départ, jamais à ma captivité. La colère prend la relève, pour ainsi dire. Moi seul demeure ton entourage, le feuillage sur ta peau. Je suis par cette distance, Antigone, délivrée des traces colossales. Merci.
Merci, Nicole. Gabriel-Pierre Ouellette a publié plusieurs titres aux éditions du Norrois, dont « Les grands déluges sur nos têtes ». Trois de ses scénarios, un pour la télévision et deux pour la radio, ont été primés lors de concours de Radio-Canada. Il a aussi publié un essai sur le peintre Rénal Piché et, à l'Hexagone, un roman intitulé « Les oriflammes noires ». Fidèle à son parcours, « Les ormes de la nuit » s'offre comme un plein champ de la mémoire, si l'on peut dire, où le poète questionne et fait revivre le temps de l'enfance, non comme un paradis idyllique, mais comme l'effroi d'une nuit qui dure. Ainsi lit-on des livres qui ouvrent des espaces à la façon du tronc d'un homme qui se dédouble en forme et forme des embranchements. Les vivants passent au loin, quand ils s'amènent, leur voix laisse des noms et des images dans les mémoires pendant que la nuit tombe. Les livres rentrent sous terre et l'angoisse, malgré les matins d'été, se mêlent aux secrets de l'univers. D'autres voix menacent dans l'ombre qui annoncent les barbares et les vengeances familiales. Ces théâtres accueillent la mort du père. Revenu des cimetières, il vit la mort comme il a vécu la vie, pendant que son fils rêve qu'on le tue dans le dos. Il appartient au royaume de la mort, contigu au jour qui toujours retombe dans la nuit. Il n'y a de vie que dans l'effroi provoqué par la joie de se voir devenir un autre Lucifer, le porteur de lumière qui engendre sa propre chute. Gabriel Pierre.
C'est très bien résumé, je n'ai plus rien à dire. Eh oui, tout d'abord une correction, je voulais lire un poème, un texte que j'ai fait sur Hamlet, et en le préparant, je me suis rendu compte, c'est à la page 31 de ce recueil, que je fais vivre Shakespeare à la fin du 15e siècle, tandis que c'est à la fin du 16e siècle. Alors, une correction qui c'est ma faute, je n'y ai pas fait. J'ai vérifié dans mes premiers manuscrits, j'avais écrit 16e en lettres, mais évidemment, il faut le mettre en chiffre romain, puis le 1 est passé. Alors je ne peux pas lire ce texte, il est... Aujourd'hui, là, il est... je ne l'aime pas. Alors, on va aller ailleurs. Jamais le son grave ou aigu, la naissance d'une note qui serait la clé du poème, la douceur du bois sous le corps de l'arbre, mais toujours l'angoisse du corps devant l'arbre absent. Ils avaient un livre d'ennui à cœur de temps, à cœur de jour. Ils lisaient le jour du Seigneur, dans le travail de la colère, et la rage des caractères creusés tout au fond de leur crâne. Ils lisaient, dévorant des yeux, les vivants qui marchaient au loin. Ils lisaient, et l'après-midi, j'aime le mot d'après-midi, soulevaient les cheveux, les robes, s'accrochaient aux branches des ormes, au milieu tranché de leur tronc, à la fourche des grands chemins, les chemins du temps qui effacent les clôtures et les murailles. Le dimanche, le temps qui ouvre ailleurs. J'aime lire, dit l'enfant qui n'a que des livres sous la main. Si mon livre voulait danser, deux cordes je lui donnerais pour qu'il se pende à la fenêtre, haut et court au cœur de la pluie, et regarde tomber la vie. Nous nous endormions, malheureux, du sort secret de l'univers, dans la bouche des trois enfants de Fatima, qui s'en allaient au champ du grand Saint-Nicolas, couper le blé dans les prairies, jaunies de nos géographies, monde flamboyant des greniers. Les matins d'été, dans les flots de soleil tombant de nos rêves, oui, monsieur, nous étions d'équerre. nous ne lisions pas tout le jour. On allait secouer la nappe, le matin, à midi, le soir, aux fenêtres de la cuisine d'été, comme d'un grand balcon devant un mariage d'oiseaux. Il y a des siècles, des caravelles, des flûtes, des trois-mâts creusaient la mer, avec leurs morceaux de bois pourri, ravageaient le ciel de toiles carrées, jaunies, raides de sel, d'huile et de goudron. Des jours, des nuits, vides de bêtes et d'oiseaux, je descendais au fond de la cale, parmi les caisses et les tonneaux, pour toucher du bois frais, fuir le bleu cru de la lumière, et des feuilles mortes tombaient dans le silence. Au moment où l'ombre se fond dans la nuit, où sans révolte on laisse une partie de la terre tourner le dos au soleil, le corps sait que la mort roulera sur sa vie, que ni terre ni océan n'auront dans la lumière un geste d'adieu. Il ne voudra pas s'opposer à l'abîme, parce que tous les soirs, en allumant des filaments et des mèches, il aura voulu brûler les encres noires et bleues qui éteignent la terre, le ciel et l'eau. À force d'éclairer l'obscurité, il en connaît le royaume et les pouvoirs. Il est entré dans ses fiefs et ses tombeaux. Il sait qu'il est dans la nature des choses de se soumettre à l'extase et à l'horreur, à ce moment de perdre pied, perdre haleine, perdre la tête, corps et biens. Tout comme... Ce qu'on n'a pas vu existe, mais ce qu'on voit, existe-t-il? Rêve de la nuit du 13 au 14 mars 1997. 17 ans plus tard, mon père m'est apparu, tout souriant. Je me disais, je le vois en rêve, il faut que je regarde bien. Il n'a rien dit avant que je parle. Il m'attendait avec son sourire en coin. Je lui ai demandé s'il était heureux. Il m'a répondu qu'au début, c'était ardu, difficile, mais c'était comme la vie. Il avait une veste à petits carreaux, une cravate. Il est monté sur quelque chose à ma droite que je ne pouvais discerner, comme si le cadre de la scène m'empêchait de tout voir. Rêve du 9 septembre 1998. Bizarre inconscient. Les rêves se déroulent avec une foule d'autres détails dont je ne me souviens plus. À moins qu'il soit trop ardu d'aller les chercher dans ma tête, qui, le jour, se referme. Je ne dissimule pas quelque honte. Je sais cet effort surhumain, comme s'il fallait ouvrir une huître avec les plis et les tremblements de mon cortex chauffé à blanc, gratter la chair du cerveau avec une bêche. Je marche sur une terre, rêve de la nuit du 11 au 12 novembre 1998. Je marche sur une terre ou sur une neige dont la surface durcie a formé une croûte. Je m'aperçois que j'ai été aveugle quelques années durant mon enfance. Ma vie a commencé quand j'ai retrouvé la vue. Le rêve apprend à ne demander ni recevoir de raison. Seul le désir de tout voir existe. Rêve de la nuit du 11 au 12 janvier 2003. Dans un rêve, je me réveille. J'ai accès à la conscience de l'inconscient, capable de se réveiller tout en dormant. Je ne suis pas encore mort. J'ai les mâchoires barrées. Je sais que je me plains. Je ne ressens pas la douleur qui cause mes plaintes. J'ai toutes les raisons du monde pour me plaindre. Je me plains, donc la douleur existe. Une personne inconnue me dit de ne pas m'en faire. Je retournerai dans la mort. Et je reprends mes oiseaux, les matins d'été dans les flots, de soleil tombant de nos rêves. Oui, monsieur, nous étions d'équerre. Nous ne lisions pas tout le jour. On allait secouer la nappe, le matin, à midi, le soir, aux fenêtres de la cuisine d'été, comme d'un grand balcon, devant un mariage d'oiseaux.
Merci, Gabriel Pierre. Notre dernière invitée, Denise Zotel, a reçu récemment le prix de littérature francophone Jean Harpe de poésie des Rencontres européennes de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Résultat, les éditions du Norrois publient « L'angle noir de la joie » en coédition avec le Norrois, un 13e ouvrage au Norrois. On ne résumera pas ici une œuvre faste et ouverte qui comprend des romans, des dramatiques, radiophoniques et des livres de poèmes. Ses récompenses littéraires sont nombreuses et ont abouti au prix Athanase David pour l'ensemble de son œuvre. Une anthologie de son travail est parue aux éditions du Norrois, intitulée « Mémoires parallèles, choix et présentation de Paul Chamberlain », parue en 2004. Et « The Night Will Be Insistent, Selected Poem 87-2002 », traduction de Daniel Sloat, a été publiée chez Guernica en 2007 à Toronto. Plusieurs des textes de Denise ont paru dans des revues, dans les anthologies, d'ici et d'ailleurs, et ont été traduits dans diverses langues. Son plus récent titre, « L'œil au ralenti », reprend des tirages de livres d'artistes parus au cours des 20 dernières années. On retrouve dans « L'angle noir de la joie » le rapport trouble que l'auteur entretient avec l'émotion de la joie, tant dans la vie que dans l'écriture. Elle écrit « J'aime le mot « joie ». J'en aime la texture sonore énigmatique, la part obscure, l'étrangeté même, et la fausse brièveté. J'aime qu'il offre une résistance, qu'il ne réponde pas directement, comme tous les autres qui font la poésie, choisis un par un, avec intention et précaution. Aux questions que nous nous posons, qu'il n'arrive en fait qu'à en soulever d'autres, vrillant l'opacité du monde, sans en chasser l'inquiétude, sans en refuser la part troublante d'informulable et d'ambigu. Denise Zotel continue donc de déminer le monde pour nous permettre de l'habiter.
Bonsoir. Un grand merci, Paul. C'est donc un livre dans lequel j'erre entre l'intime et les grandes douleurs du monde. Mais je choisis de lire ce soir le plus intime des textes qui a pour titre « La dernière rivière, pour mon fils, à la mémoire de son père, le troisième père, donc ce soir, à prendre la parole. C'est dans la gorge l'émotion, Michel Deguy. Déjà, il y a un siècle ou deux, un monde entre nous, chacun, chacune, en marche, son pôle vers ailleurs. Quelle langue parles-tu? Quel ton? Quelle syntaxe? Le vertige éloigne avec ce cri qu'on ne pousse pas, de moins en moins réel, en fine ténèbres, chacun chacune, tête bêche. Or, qui est l'autre, un siècle plus tard, dans cette dernière chambre, son visage posé là, dissimulé, cils de silence peau, son ivoire me fait face. Devant, tout subsiste méconnaissable, même l'eau où nous nous sommes baignés, puis noyé, torrent, on dirait. Le rauque, l'incertain, une affaire de nuit recommence, plein soleil. Ce que je vois, solitude sauvage par tous tes pores, dans cet entre-chien et loup final de juillet. Une vie à la hauteur de la poitrine, soudain coincée. L'horizon va, sans s'épuiser, sans signe excédentaire, que les aiguilles méthodiques à ton poignet, ta montre. L'énigme, pour violoncelle seule, ta voix éteinte avant tout le reste. Adieu amour d'un autre temps, adieu. Aujourd'hui, ta face tout maquillage, en dessous, une foule, son calme effroi, on l'entend, sentinelle. Je reconnais la rivière, à gauche elle coule, sous un rectangle de vitre. Au simple toucher, la bague d'une autre à ton annulaire, l'acharnement de ton os, de ta joue, tout près, ailleurs. On ne discerne plus ni qui ni quoi, entre et sort dans ce jour maigre, tandis qu'un jet de rayon touche tes derniers draps. La rivière coule, linceul déjà, enveloppe mobile. Même sans avenir, cette chambre n'est pas encore verte, malgré son authentique indifférence. Est-ce encore nous, toi, l'inconnu au bout de mes doigts, de l'autre côté, si peu? Ici, autrefois, tout de suite, c'est sans mesure, entre rivière et chambre. Du fond vers la surface, je nous ramène et recense les pièces de l'étreinte. La scène s'étend, nous occupons mur et sol, droite couchée, droite debout. Monochromie amoureuse des nageurs, jeune si jeune, sur la tapisserie d'angle. 5 bassins d'eau, 5 plaques de granit, station de Bilviola. Maladroitement, nos corps plongent comme s'ils tombaient et replongent en désespoir de cause. Jusqu'au bout, leur installation de silence. Puisque, au final, tout meurt. Devant, la vie déjà se souvient, une île et l'univers. Nulle part l'éternité. Dans le lointain, en continent exilé, nous avons été cet amour-là. Nos coudes à coude, nos instincts inadéquats, personne ne crie ni ne parle, mais de tous bords, incompatibles, un cœur, un autre, jusqu'à épuisement. L'absence à tour de rôle, on s'en accommode. Que faire de ce tas d'alibi et d'éclipses? Surtout, ne pas sombrer. Tout terre, la gorge, l'émotion, nos dizaines de rivières en crue. Chaque fois, l'énigme des glaïeuls, on s'ajuste, on feint de l'ignorer, à la brièveté du souffle. Dans l'abstraction de cette chambre, on improvise. Là, debout, ne suis pas, n'était pas prévu. Mais à la manière d'un roman, aujourd'hui, notre enfant fait homme, le fil de l'eau, je le tiens, une intrigue laquelle rôde. Ton dénouement se précipite. Hier, déjà, une douleur d'archive, son grand sphinx de nuit. Ouvrir, ouvrir, comme on le dit, de l'espoir, sous tes cils noués. Un silence couleur cire. Au ralenti, la pause, la disgrâce, la panique de mes larmes, malgré le bleu, l'extrême bleu. Soudain, j'exige, je crie, un peu de sens. Mourir. Un jour, quelqu'un, oublions le reste, que ça va finir. Disons, toi, nous, intimement, avant, hors le moindre malentendu, sans personne, ni guérilla, ni hystérie. Avant ce paysage de mur, ce plus jamais, toi, nous, ni celle, ni celui que nous avons choisi. Dis-moi où continue le futur. Jusqu'où ce ciel rampant. Avant, toi palpable encore, toi, notre exigence affirmée, bien au-delà du mutisme du territoire. Toi, nous, peu à peu l'espérance d'un second hasard, de l'inédit, deux ou trois notes, comme un don. Lenteur de pulse, parce que nos corps pesant de monstres, jusqu'ici, du néant alentour. Ce septième jour, pourtant, quelqu'un s'en va, sans pied, sans main, éternel suspect, toi, toi, seul, poignant, changé en momie, toi, sans personne au bout, ni à l'intérieur, nulle part. À quoi peuvent bien servir désormais ces avant-bras de deuil, toujours trop hauts? Toi, collectionneur de mystères, de faces, de profils, incognito. Ton œil chargé, il y a peu, on s'y accroche, tu ne dis rien. Aujourd'hui, et quelques vies achevées, aucun après possible. De plus en plus, ta distraction s'acharne. Me revoilà, à distance, balbutiant, ma pensée saturée de trous. Je te regarde t'en aller, te regarde irréversible, souterrain. Totale verdure, avec ce qui reste de toi sous tant de lavande. Tu n'auras jamais rien dit. Les poings fermés, peut-être, l'enfant sait-il, lui, heureux. Merci.
Merci Gabriel Pierre, Geneviève, Nicole, Denise. Merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez répandre la nouvelle que la poésie est faite pour tous, aux amis, aux inconnus, à qui vous voudrez. Et leur rappeler que dimanche le 29, une lecture des éditions du Noroi aura lieu dans le cadre du Festival de poésie de Montréal. C'est à la sortie du métro Mont-Royal. Entre-temps, nous aurons, vous êtes conviés, la semaine prochaine à l'Elbrie Port-de-Tête, mardi 24. C'est ça, 24. Et donc, un lancement de 17h30. Vous êtes les bienvenus. Merci à la librairie Olivieri et à Radio Spirale pour la captation. Et puis, bonne suite dans la soirée. Les auteurs, évidemment, sont là pour vous rencontrer et les livres sont à l'avant pour être lus. Merci.